commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire que nous allons avoir avec Marion Van Rettergem, qui est grand reporter, journaliste émérite, et qui vient d'écrire un livre intitulé « Le piège Nord Stream », publié aux éditions des Arènes. Et qui est un livre important parce que, à travers l'exemple de ce pipeline, de ce gazoduc qui alimente l'Allemagne en gaz russe, on peut apercevoir les 10 années qui viennent de s'écouler, peut-être même davantage, et mieux comprendre, au fond, l'aveuglement qui a été celui de nos dirigeants et des opinions occidentales et françaises notamment, sur Vladimir Poutine et ses ambitions. Et donc le livre part d'un constat qui est que, au fond, l'Allemagne, en se dédiant, ou en se livrant, j'allais dire presque pieds et poings liés, au gaz russe pour les besoins de son industrie, gaz russe moins cher que d'autres formules, évidemment, c'est évidemment tomber dans un piège qui était un piège organisé par Vladimir Poutine pour satisfaire ses ambitions, qui sont des ambitions territoriales de reconquête des frontières, on peut dire de la Grande-Russie, mais aussi bien de l'Union soviétique. Et donc, à travers cet exemple de la gestation de ce gazoduc, sa mise en service, son utilisation, on voit vraiment se déployer l'ambition de Vladimir Poutine et, hélas, se révéler la faiblesse de nos gouvernements, d'une façon générale. Marion Van Rettergem, c'est bien cela la trame de votre livre.
Exactement, il faut être deux pour danser le tango, donc c'est à la fois un piège très organisé, et c'est ça qui m'a, à vrai dire, surprise au cours de cette enquête, parce que en voulant raconter l'histoire de ce tuyau, en fait de faire la biographie d'un tuyau, c'est vraiment ce que j'ai fait dans ce livre, je voulais, d'abord, j'avais pris le symbole physique de cette dépendance entre la Russie et l'Allemagne, ce tuyau qui traverse la mer Baltique depuis Saint-Pétersbourg jusqu'à la bordure de l'Allemagne. Et à vrai dire, donc je m'intéressais aux causes de la guerre en Ukraine et j'avais le sentiment, je voulais explorer ces 20 ans de dépendance énergétique entre la Russie et l'Europe. Et ce qui m'a surprise au cours de l'enquête, c'est de voir à quel point en fait ça avait été un piège organisé et très bien pensé, très bien entre guillemets, très bien pensé, très 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 subtilement pensé par Vladimir Poutine depuis son arrivée au pouvoir, parce que ce tuyau, c'est ce quadruple tuyau de Nord Stream 1 et Nord Stream 2 a exactement le même nombre d'années que Poutine au pouvoir. Il est arrivé au moment où Poutine arrivait au Kremlin, l'idée est née dans la foulée, donc c'est vraiment le projet de sa vie et c'est son projet stratégique et économique le plus important. Et il a vraiment pensé Nord Stream et pensé la dépendance énergétique par le gaz de manière très réfléchie. Lui-même avait fait une thèse sur les matières premières. Il avait compris l'importance des matières premières dans la mise en place d'une puissance économique. Et il a organisé la dépendance avec un but et une stratégie globale qui était chez Poutine, et c'est là que l'Occident a été totalement aveugle et n'a pas voulu comprendre son ambition profonde, qui était de récupérer, comme vous dites, la Grande-Russie, l'Union soviétique. C'est quelqu'un, Poutine, qui ne conçoit pas la puissance autrement que par l'extension territoriale. Ils pourraient la concevoir autrement, par le soft power, par la séduction, comme le font les Américains, par la séduction économique, par la séduction culturelle. Non, pour lui, c'est conquérir des territoires. Et dans cette reconquête des territoires, puisque c'est un nostalgique de l'URSS, comme il l'a dit lui-même, il avait dit que l'Union soviétique était une catastrophe, la catastrophe du XXe siècle, dans cette volonté de conquête et de reconquête de la Grande Russie, de l'Union soviétique perdue, il a très bien compris que l'instrument majeur, c'était les pipelines qui permettent de prendre en otage le continent européen parce que ça permet un gaz moins cher que le gaz liquéfié qui doit être le GNL qui doit être transformé, qui passe par bateau, par camion, etc. Et donc, il a très très habilement rendu l'Europe droguée au gaz. Mais encore, comme je commençais à dire, il faut être deux pour danser le tango, et le piège ne marche que si les autres veulent bien y tomber.
Mais peut-être il faut rappeler d'ailleurs qu'au point de départ, l'illusion commune, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est l'idée que, au fond, la Russie, redevenue la Russie et non plus l'Union soviétique, va se normaliser, donc va se démocratiser. C'est un peu l'espoir qu'il y a au moment de Yeltsin. Et puis quand Poutine arrive comme le successeur de Yeltsin, tout le monde pense qu'il va être sur ce chemin-là d'une démocratisation du système et donc d'une intégration de plus en plus grande de la Russie dans, au fond, dans la mondialisation telle qu'elle fonctionne, et avec une sorte de concurrence qui s'ouvre entre Européens, les Français voulant se précipiter pour faire des affaires, pour investir, pour implanter ici l'automobile, là le pétrole, là autre chose, et les Allemands idem. L'illusion est totale, alors que en même temps, Poutine fait des discours, des déclarations, notamment cette fameuse déclaration sur la plus grande catastrophe stratégique du XXe siècle, c'est la mort de l'Union soviétique, qu'ensuite, petit à petit, il pose ses jalons, il se montre de plus en plus tel qu'il veut être, et que là, personne ne fait attention à cela, parce qu'on est tous préoccupés, Français, Allemands, Italiens aussi, par le fait de faire des affaires en Russie, un peu comme au temps des emprunts russes, d'ailleurs. Jean-Claude, voilà un petit peu, on comprend pas collectivement nos illusions sans rappeler ce contexte-là, Jean-Claude Casanova.
Oui, je crois que l'erreur du côté occidental vient du fait que, à cause de la chute du communisme, on a oublié deux réalités. Une réalité géopolitique et une réalité tenant au régime proprement dit. La réalité géopolitique, c'est que entre l'Europe occidentale et la Russie, il y a un ensemble qui comprend au fond les Slaves de l'Ouest et l'ensemble des pays scandinaves. Et sur cet ensemble, il y a constamment, historiquement, depuis le XVIIe siècle, une tension entre l'Allemagne et la Russie. C'est au fond, qui est le plus influent ou le plus puissant dans la zone qui va des pays scandinaves jusqu'à la Roumanie? Est-ce que ce sont les Allemands ou est-ce que ce sont les Russes? Et au fond, Poutine n'a pas accepté le recul de la Russie, presque équivalent aux positions de 1917. Il le supporte mal, si vous voulez. Donc, il a un objectif d'expansion vers l'Ukraine, de contrôle de la Biélorussie, peut-être les pays baltes, éventuellement la Pologne, etc. Et donc, le deuxième problème qu'on a oublié, c'est l'étroite relation en Russie, dans le régime politique russe, depuis maintenant plus de 20 ans, entre la politique et l'économie. C'est-à-dire qu'on a pensé, une portion des Occidentaux continue de penser qu'au fond, le gaz russe, c'est tout simplement une entreprise qui veut vendre du gaz parce que la Russie a besoin d'exporter pour pouvoir importer. Elle manque de capitaux, elle manque d'un certain nombre de biens, donc elle veut exporter une de ses ressources naturelles, ce qui est normal. Et on ne voit pas que pour les Russes, pour Poutine, pour le régime de Poutine, il y a une étroite liaison de la politique et de l'économie, et que l'économie est un moyen de la politique, et incontestablement, ils voulaient isoler l'Ukraine, en contournant les moyens de distribution, en passant au-dessus de l'Ukraine, dans la mer Baltique, de façon à pouvoir du jour au lendemain couper une ressource ukrainienne importante et de rendre l'Allemagne plus dépendante de la Russie. Et aujourd'hui, les Allemands redécouvrent qu'ils ont failli être dépendants, totalement dépendants de la Russie, qu'ils ont failli contribuer à l'appauvrissement et à la mise sous tutelle de l'Ukraine. Donc ils découvrent une réalité, les Occidentaux le découvrent aussi avec les Allemands, ils découvrent une réalité auquel ils auraient dû être plus attentifs à partir du début des années 2000.
C'est un des aspects que vous traitez, Marion Van Hintergem, dans ce piège Nord Stream. Et en même temps, vous démontrez que, enfin, vous approfondissez l'enquête sur les compromissions, pas seulement allemandes d'ailleurs, mais aussi françaises, qui ont permis justement à Vladimir Poutine d'avancer. Parce que, ben, il a acheté la complaisance, la connivence, par exemple, de l'ancien chancelier Gerhard Schröder. Donc, on l'a vu promu au sein du conseil de Gazprom, puis à la tête de la société qui pilote ce Nord Stream. On se disait, il est au fond un petit peu acheté par les Russes, mais on ne percevait pas l'ampleur de ces compromissions, le développement du réseau même qu'il fallait pro-russe pour arriver à ce résultat, Marion.
Oui, il y a plusieurs choses que je voudrais dire. D'abord, je pense qu'il faut rappeler la description de base de ce Nord Stream pour comprendre. Comme vous disiez, Jean-Claude Casanova, Nord Stream donc contourne l'Ukraine, 80% du gaz russe arrivait préalablement par les pipelines qui passaient par l'Ukraine. Donc, l'objectif de Poutine, qui n'était pour le coup pas celui des Allemands, c'était d'asphyxier économiquement l'Ukraine en la privant de ses droits de transit. Et ça, Angela Merkel notamment a beaucoup insisté. Les Allemands ne voulaient pas asphyxier l'Ukraine pour le coup, et ils insistaient sur le fait que il fallait continuer, que c'était très bien Nord Stream, que c'était au cas où qu'il y aurait des conflits gaziers entre la Russie et l'Ukraine. L'Europe ne voulait pas être dépendante et victime collatérale de ces conflits, de coupures de gaz, etc., comme ça s'est passé plusieurs fois. Et donc Merkel avait insisté, qui était très obsédée par ce projet de Nord Stream, insistait beaucoup pour ce qu'on continue à utiliser les gazoducs ukrainiens pour que justement l'Ukraine ne soit pas privée de ses droits de transit. Mais ce que les Allemands n'ont pas vu, ce que personne n'a vu et ce que Poutine, lui, savait pertinemment et construisait patiemment à escient, c'était que ça n'est pas seulement, Nord Stream ne consistait pas seulement à priver l'Ukraine de moyens financiers, mais elle dépossédait de son seul bouclier stratégique. C'est-à-dire que l'Ukraine, sa seule utilité stratégique, sa seule arme, c'était justement d'avoir une sorte de levier de pouvoir grâce à ses tuyaux, grâce à ses gazoducs, qui fait que elle était protégée parce que la Russie de Poutine avait besoin de l'Ukraine pour servir ses clients en Europe. Et pour le coup, tout le monde s'accorde à dire que Gazprom, le bras du Kremlin, la grande société gazière, le plus grand groupe d'ailleurs gazier mondial, était extrêmement un très bon partenaire économique. Ils n'ont jamais failli, ils étaient très extrêmement rigoureux avec leurs clients, etc. Et donc Poutine détestait l'idée de devoir passer par l'Ukraine et de dépendre de l'Ukraine pour servir ses clients. Et ce que les Ukrainiens ont très bien compris, ce que les Polonais ont compris, ce que les Baltes ont compris, n'ont pas cessé de répéter, c'est, ils disaient, mais vous ne vous rendez pas compte qu'en faisant Nord Stream, vous ouvrez la porte à une invasion de l'Ukraine et à une guerre en Ukraine, parce que justement, l'Ukraine n'aura plus de bouclier stratégique. Et c'est ça que les Allemands n'ont pas compris. Et c'est exactement ce qui s'est passé le jour, cinq mois après la fin de la construction de Nord Stream. Poutine s'est senti le droit d'envahir l'Ukraine. Il y a vraiment une coïncidence de date.
Encore fallait-il croire ou penser que Poutine avait des intentions guerrières en Ukraine, ce que refusaient de penser et de croire nos dirigeants.
Et pourtant, ils le savaient, parce que ça, Angela Merkel, avec qui j'ai beaucoup parlé, n'était pas du tout naïve. Elle savait très bien les ambitions de Poutine sur l'Ukraine. Pour le coup, c'est de Merkel, parce qu'on n'a pas parlé de Schröder, qui est vraiment, comment dire, totalement cynique et immoral, et qui a vraiment ouvert la voie et qui a été vendu à tous les sens du terme à Poutine, et qui a en plus fait du lobbying dans toute l'Europe, auprès des sociaux-démocrates de toute l'Europe, pour faciliter cette dépendance de l'Allemagne et de l'Europe vis-à-vis de Poutine. Mais Angela Merkel, c'était une toute autre nature. Elle est hors case, elle n'est pas du tout corrompue. Ça, c'est, il y a zéro histoire d'argent avec Angela Merkel. Et elle n'est pas du tout naïve. Et d'ailleurs, c'était ma question de départ. C'était comment quelqu'un qui connaît mieux Poutine que tous les autres dirigeants occidentaux. Elle a vécu 30 années de sa vie, la moitié de sa vie en Allemagne de l'Est. Elle connaît la dictature. Elle connaît Poutine, qui a été agent du KGB, officier du KGB à Dresde, en Allemagne de l'Est, pendant qu'elle, elle était du côté de l'occupé. Ils se connaissent très bien. Ils parlent en allemand, ils parlent en russe. Elle n'a aucune espèce de naïveté. Et pourtant, elle est tombée dans le panneau. Et parce qu'elle était d'abord par cupidité pour son pays, pour servir les besoins industriels de son pays, elle s'est laissée prendre à l'appât du gaz russe. Elle s'est aussi laissée convaincre par la coalition. Ça, on a toujours du mal à le comprendre en France, à quel point un chancelier n'est pas tout puissant. Mais elle avait une coalition,
de
sociaux-démocrates eux-mêmes, tout à fait sous influence de Gerhard Schröder et des amis de Gerhard Schröder. Ça, je raconte tout ça dans le livre, mais je pense qu'elle a un peu naïvement pensé que la dépendance était une interdépendance, c'est-à-dire que dans la mesure que certes l'Allemagne était dépendante du gaz russe, mais que dans l'autre sens, Poutine était dépendant de ce premier client qui était l'Europe, et tout le monde se tenait par la barbichette. Mais comme m'a dit un Polonais, il m'a dit oui, enfin l'interdépendance, ça joue aussi entre un loup et des moutons. Le loup a besoin des moutons et les moutons se font bouffer par le loup. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et Merkel a pensé, parce qu'il y avait cette histoire, le péché originel de l'Allemagne, c'était l'arrêt brutal du nucléaire, qui n'est pas dû uniquement à Merkel, mais du fait qu'il n'avait plus l'usage du nucléaire parce que c'était tabou, pas droit à l'usage du charbon parce que c'était polluant. Il fallait, en attendant le développement des renouvelables, passer par le gaz russe. Et Merkel a pensé qu'elle avait le temps, qu'elle pouvait tenir Poutine, par cette interdépendance, le temps de préparer le terrain à d'autres énergies. Mais là où elle n'a pas vu justement sa grande faute, c'était de ne pas voir à quel point ce tuyau privait l'Ukraine de son principal bouclier de sécurité stratégique.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Marion Van Rettergem. Nous parlons du piège Nord Stream, qui est le titre de son enquête publiée aux éditions des Arènes. Jean-Claude Casanova.
Je crois que Merkel n'a pas vu une réalité simple, c'est que Poutine ne supporte ni l'existence de l'Ukraine comme pays indépendant, ni la nature démocratique de l'Ukraine. Il ne veut pas une démocratie à sa frontière. Il a la même attitude à l'égard de la Biélorussie. Simplement, il y trouve en Biélorussie un complice, hésitant d'ailleurs au début, la Biélorussie voulait davantage d'indépendance, mais entre deux tyrans s'entend plus facilement qu'entre un tyran et une démocratie.
Ça pose mille questions d'ailleurs dans cette enquête foisonnante, Marion, mais l'une des interrogations que l'on peut avoir, c'est comment les Allemands est-ce que c'est sous influence au fond que les Allemands, et notamment à l'époque de Gerhard Schröder, renoncent au nucléaire? Ou bien est-ce que la renonciation au nucléaire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans l'esprit allemand et qui vient qui est relié un petit peu à leur pacifisme? Marion Van Rettergem.
Oui, c'est très intéressant. D'abord, il y a quelque chose avec les Verts allemands qui est paradoxal, parce que les Verts allemands en tant que parti contemporain, enfin le parti d'aujourd'hui qui est dans la coalition au pouvoir, sont les plus fermement opposés à Vladimir Poutine et à la dépendance à la Russie. Et en même temps, l'idéologie de base des Verts allemands, c'est en effet le principe de base, c'est l'arrêt total du nucléaire, qui lui-même a favorisé la dépendance du gaz russe. Mais c'est en effet un point important. On dit souvent Merkel a arrêté le nucléaire. C'est plus compliqué que ça.
Non, le processus a été lancé par Schröder.
Le processus a été lancé par Schröder. À ce moment-là, d'ailleurs, Angela Merkel s'y était opposée. Et puis, il y a eu l'accident de la centrale de Fukushima qui a traumatisé tout le monde, toute l'Allemagne qui était déjà, qui avait un terrain, parce que malgré tout les Verts allemands, les anti-atomes des années 70 avaient gagné la société. C'est, comme vous dites, c'était un peu un héritage et de cette culpabilité de la Deuxième Guerre mondiale, où finalement il y a une espèce d'horreur en Allemagne, d'horreur mais ancrée et je pense assez irréversible de l'atome, une peur de l'atome comme instrument de guerre mais aussi comme menace sur la sécurité de la planète. Enfin, ils n'aiment pas beaucoup avoir les centrales nucléaires françaises à leurs frontières. Ils ont peur. Comme disait Sarkozy à Angela Merkel quand elle lui avait annoncé qu'elle voulait lancer l'arrêt total des centrales, il lui avait dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, Fukushima, quel rapport? Elle a dit, après Fukushima, on ne peut plus. Il lui avait dit, mais il n'y a pas de tsunami, il n'y aura jamais de tsunami sur le Rhin, que je sache. Donc, mais les Allemands, c'est comme ça, c'est ancré, et la décision de Schröder, après prolongée par celle d'Angela Merkel d'arrêter le nucléaire, n'est pas une décision qui vient d'en haut, qui vient d'un chancelier, qui est un acte autoritaire. C'est vraiment une expression de la société allemande tout entière. Et au point qu'il y a eu un vote au Bundestag quand Merkel a proposé l'arrêt des centrales, enfin la programmation de l'arrêt des centrales, il y a eu un vote au Bundestag. Jamais dans l'histoire de l'Allemagne, sur les grandes décisions importantes, il n'y a eu une telle majorité au Parlement allemand pour arrêter le nucléaire. Donc c'était vraiment l'Allemagne entière.
Mais c'est une profonde erreur politique, parce que la Russie est une grande puissance nucléaire. elle a l'armement nucléaire le plus important dans le continent européen, sur le continent européen, et donc d'une certaine façon, les Allemands sont obligés de se mettre sous la protection du nucléaire américain. Donc on peut pas être abstraitement contre le nucléaire et réclamer la protection du nucléaire américain. Il y a des installations, il y a des armements nucléaires américains en Allemagne.
Il y a acheté donc de l'électricité en France produite par le nucléaire.
Il faut que l'Allemagne sorte du rêve d'une grande Suisse. Il faut qu'elle comprenne qu'elle appartienne à l'Europe, que l'Europe est un ensemble politique de 400 millions d'habitants, largement supérieur à la Russie, et qu'un jour ou l'autre, l'Europe devra se donner un parapluie nucléaire propre à partir du nucléaire français et du nucléaire anglais. D'ailleurs, dans les années antérieures, donc au début des années 50, l'Allemagne a pensé même à l'armement nucléaire. Donc, il faut sortir de ce pacifisme un peu idiot qui a été largement poussé par les Russes et qui repose sur une idée non politique, c'est-à-dire que l'Allemagne n'est pas menacée. Or, si l'Allemagne n'est pas défendue par les Américains, c'est un jour les États-Unis se retire d'une protection de l'Europe, l'Allemagne deviendrait dépendante de la Russie. Et donc, je crois qu'il faut espérer que les Allemands se réveillent à ce point de vue-là.
Alors, c'est un des aspects de votre livre, Marion von Rettergem. Il y en a mille autres, donc on n'a pas le temps de tout passer en revue. Juste un mot quand même avant de se quitter sur, parce qu'on parle de Schröder, de la propagande que Schröder a faite au bénéfice de la Russie dans les milieux sociodémocrates, etc. Est-ce que la France a été atteinte? Alors, quand on dit la France et la Russie, on pense à François Fillon, bien sûr, qui veut vendre des rillettes sur la place Rouge, mais est-ce qu'il y a eu aussi un effort de compromission plus ou moins réussi, parce qu'il y a en France un parti russe? Est-ce que ce parti russe était sous l'influence de Poutine, volontairement sous l'influence de Poutine, ou involontairement? Comment regardez-vous cet aspect des choses?
La France était moins importante pour Poutine que l'Allemagne, évidemment, parce que c'était pas le niveau économique n'était pas le même, et la dépendance au gaz n'était pas le même, et puisque la France ayant le nucléaire n'était pas achetable aussi facilement. Mais malgré tout, il a essayé et il a obtenu, il a opéré des entreprises de séduction en bon agent du KGB. C'est vraiment un recruteur, lui, c'est un recruteur d'agents, et il a été très habile, non seulement pour corrompre par l'argent, mais ça n'était pas la seule manière. Il a aussi joué, et en France on aime beaucoup l'idéologie, il a beaucoup joué sur l'idéologie, et là il est tombé, alors il n'avait même pas besoin de faire d'efforts avec des partis comme le Rassemblement National ou la France Insoumise de Mélenchon, qui sont tellement anti-américaines, basiques,
fascinés par l'homme fort, par le dictateur, etc.,
que pour le coup il n'avait pas de travail à faire, il lui tombait dans la main sans qu'il ait à... Quoi quoi que ce soit à faire. Là où il y avait un travail pour lui intéressant à faire, et ça a très bien marché avec François Fillon et un peu avec Nicolas Sarkozy, c'est que cette espèce de dans cette grande famille souverainiste se réclamant du gaullisme, qui a un peu simplifié le gaullisme en voulant faire de Gaulle un anti-américain primaire, et on faut surtout pas montrer qu'on est aligné sur les États-Unis, nous sommes la France, nous sommes indépendantes.
Vous voyez De Gaulle devenir administrateur de Gazprom ?
Et jamais, et bien sûr que non. Et De Gaulle a toujours montré dans les moments critiques, notamment pendant la crise
des fusées à Cuba, qu'il était anti-soviétique
et qu'il connaissait et qu'il choisissait son camp clairement. Oui. Mais tout ça est très mal digéré en France. On adore s'approprier De Gaulle pour servir son anti-américanisme. Et en tout cas, Poutine avait besoin adorait les premiers ministres. Il trouvait que c'était un bon niveau pour lui. Il avait eu l'ancien chancelier Schröder, qui était l'équivalent du premier ministre en France. Et il s'était attaqué à Fillon avec beaucoup de succès. Il avait séduit, je raconte dans le livre comment, ils ont été premiers ministres en même temps, parce qu'à un moment, Poutine a cessé d'être président, avait échangé avec Dmitri Medvedev et devenu premier ministre. Enfin, des liens d'amitié se sont créés. François Fillon était dans cette nébuleuse un peu gaulliste, séduit par l'attention que lui prêtait Poutine, pas insensible non plus aux offres d'argent, et il a lui aussi, il se trouve qu'il est parti avant et qu'il n'a pas été dans l'affaire Nord Stream directement, enfin il a été dans Nord Stream 1 puisque il était sur cette fameuse photo où on voit tous les leaders ensemble en train de lancer d'inaugurer le robinet du gaz, mais Nord Stream 1 n'était pas un moment polémique autant que Nord Stream 2, c'était avant l'annexion de la Crimée, etc. Et François Fillon a été un peu... La France, d'une manière générale, a été sauvée par le nucléaire, finalement. Parce qu'il n'y aurait pas eu le nucléaire, on serait tombé dans la dépendance au gaz russe de la même manière. Et d'ailleurs, même François Hollande, qui a été le plus lucide vis-à-vis de Poutine de tous les présidents français, il a arrêté la vente des Mistral qu'avait organisé Sarkozy, a malgré tout insisté pour que la société Engie soit actionnaire de Nord Stream. Il ne faut pas l'oublier non plus.
Voilà, il y aurait mille autres choses à dire de ce livre dont nous recommandons la lecture. Ça s'appelle « Le piège Nord Stream », publié aux éditions des Arènes, par Marion Van Rettergem, que je remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions de nous avoir prêté attention et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.